Bonjour, cette semaine dans Voix protestante, Michaël Langlois. Michaël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un habitué de cette antenne un petit peu.
Presque, c'est la deuxième fois que je viens cette année, effectivement.
En effet, vous aviez été interviewé le 11 février par Marie-Thérèse Pommier dans l'émission Croire aujourd'hui. Et puis, vous aviez parlé, entre autres, de la série de conférences que vous donnez, que vous avez donné pendant 4 mois, puisque une fois par mois, ici à Orléans, au CERC. Alors, le thème de ces conférences, c'était la naissance du christianisme et de la Bible, et on en tirera tout à l'heure un premier bilan, si vous le voulez bien.
Oui, avec plaisir.
Je vais quand même dire quelques mots sur vous pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas écouté l'émission précédente. Donc, vous êtes historien, vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg et vous êtes passionné de langue ancienne, spécialiste, entre autres, des écrits de Qumran. Je dis ça parce que vous étiez également venu, si ma mémoire est bonne, il y a 3 ou 4 ans, en parler ici au Centre œcuménique. Et puis les écrits de Qumran sont devenus un petit peu célèbres après l'exposition l'an dernier à la BNF à Paris. Voilà, alors dans cette émission Voix protestante, nous voulons également orienter notre interview d'un point de vue plus protestant. Simplement, pour faire un bilan tout d'abord de ces conférences, vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde ici à Orléans ?
Oui et non. En fait, j'avais déjà été agréablement surpris par l'accueil que j'avais reçu l'an passé quand j'étais venu. Déjà, j'étais venu à l'occasion de l'Expo Bible qui était à Orléans. Et c'est vrai qu'on avait fait une première conférence dans l'amphithéâtre de la médiathèque. Et cette conférence était pleine à craquer. Il y avait, je sais pas, au moins 100 de personnes qui n'avaient pas pu rentrer. Et du coup, on avait un peu en urgence organisé une deuxième conférence, je crois 2 semaines après, dans une grande salle et qui était pleine à nouveau. Alors même qu'il y avait la neige, on pensait à un moment donné, les organisateurs étaient même prêts à annuler la conférence le jour même en disant à cause de la neige. Et puis finalement, il y avait vraiment plein de monde. Donc j'avais déjà remarqué qu'il y avait un intérêt ici à Orléans pour ce type de conférence, pour ces sujets, pour ces thèmes. Et donc quand on m'a proposé de venir faire non pas une conférence, mais un cycle de 4 conférences, j'ai dit oui, j'ai dit absolument, allons-y, on va foncer. Et puis je suis vraiment ravi qu'il y ait un tel succès. Et chaque conférence a été pleine. Et donc ça, c'était...
Et pourtant, avec un titre difficile, un titre du cycle de conférences qui était « De la résurrection au canon ». Alors, avec à chaque fois des titres de conférences aussi très, très mystérieux.
Oui, alors c'est sûr que du coup, là, le cycle que j'ai proposé cette année, il est dans le prolongement de ce que j'avais fait l'an passé. Donc c'est vrai qu'on avait, l'an passé, on avait une conférence vraiment d'ouverture, grand public, qui essayait de poser un certain nombre de questions. Et là, on a pris davantage de temps pour creuser un petit peu ces questions. Et c'est sûr qu'il faut rentrer un peu dans les détails, c'est peut-être un peu plus technique. Mais en même temps, je crois qu'on a vraiment essayé de proposer des conférences qui soient accessibles à un large public, y compris un public de gens qui ne sont pas spécialistes.
Alors, en dehors de ça, est-ce que vous pouvez nous résumer, c'est un peu difficile de résumer 4 conférences en quelques minutes, mais peut-être nous dire ce qu'on peut en garder.
Oui, alors je peux essayer de faire un petit résumé quand même. Donc effectivement, le thème de ces 4 conférences, c'était de la résurrection au canon. Alors l'idée, c'est de faire répondre 2 événements majeurs. Un premier événement qui est la résurrection. Donc l'événement, c'est la venue de ce Jésus de Nazareth. Et puis le dernier événement, c'est la promulgation de la Bible canon, des Écritures, c'est-à-dire la liste des livres dont on estime qu'ils sont normatifs. Et ça, il se passe plusieurs siècles entre ces 2 événements. Et donc l'idée, c'était de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le détail. La première conférence s'est intéressée à la venue de ce Jésus de Nazareth, aux attentes messianiques de l'époque, en quoi est-ce que Jésus répondait ou non à ces attentes messianiques, et puis en quoi est-ce que l'événement de la résurrection est important pour fonder le christianisme, ou en tout cas la pensée centrale qui va distinguer le christianisme des autres mouvements du judaïsme de l'époque. Et justement, cette distinction entre ces deux, c'était l'objet de la deuxième conférence. On a vu, dans un premier temps, les communautés nazoréennes, c'est-à-dire les premiers disciples de Jésus, qui sont juifs, mais qui en même temps ont pour spécificité de croire que c'est ce Jésus, le Messie. Et on a vu un petit peu comment ils se sont, quels ont été leurs rapports, l'évolution, disons, de leur rapport avec les autres mouvements au sein du judaïsme. Les pharisiens avant la destruction du temple, les rabbins après la destruction du temple. On a vu qu'à l'intérieur même de ce mouvement de judéens, eh bien, il y avait des dissensions avec d'un côté les nazoréens, de l'autre les ébionites, des questions sur la divinité de Jésus, des questions sur le statut à accorder aux croyants non judéens. Parce que figurez-vous justement que très vite, il y a eu des croyants, des disciples de Jésus, mais qui n'étaient pas judéens. Et donc, on s'est posé la question, mais que faire de ces gens-là? Faut-il qu'ils deviennent eux aussi judéens ou non? Et très rapidement, à vrai dire, la proportion de croyants non judéens est devenue de plus importante. À tel point qu'ils ont abandonné le terme de nazoréen pour prendre un terme qui est celui de chrétien, qu'on connaît bien aujourd'hui, évidemment, puisque c'est le terme qu'on a gardé encore aujourd'hui. Donc ce sont des gens de culture grecque, de culture hellénistique, ils ne parlent pas hébreu, ça ne les intéresse pas trop de savoir ce qui se passe en Judée et les tiraillements internes au judaïsme. De plus en plus, ils prennent leur distance. Et donc ça, c'était la deuxième conférence.
Et la troisième, alors, portait sur les Écritures.
La troisième s'est intéressée à ce phénomène de mise par écrit. On a des traditions, il y a des événements, il y a des histoires. Toutes ces traditions, elles commencent à s'étoffer et assez rapidement, on les met par écrit. Et donc, on s'est interrogé sur la raison pour laquelle on met des choses par écrit. Pourquoi ? Pourquoi finalement ne pas se contenter de l'oralité ? Comment est née l'écriture ? On a même parlé un petit peu de la naissance de l'écriture au 4e millénaire avant notre ère. Et donc, on s'est interrogé sur les motivations. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ces textes ? Et puis, on a regardé le processus d'écriture, de voir un petit peu finalement comment on s'y prend, sur quoi on se base, quelles sont les sources, jusqu'à quand est-ce qu'on écrit, à quel moment est-ce qu'on estime qu'un livre est fini ? Est-ce qu'on peut continuer perpétuellement à l'écrire, à l'étoffer ? Est-ce qu'à un moment donné, on s'arrête ? Est-ce qu'on commence autre chose ? Est-ce qu'on réécrit ? On s'est intéressé aux réécritures, on a parlé notamment des évangiles. Quand on prend les évangiles qui ont été retenus dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a des passages entiers, on a l'impression que c'est pratiquement à l'identique. On dirait aujourd'hui c'est du copier-coller, s'ils avaient eu des ordinateurs à l'époque, avec quelques petites modifications. Et donc il y a un phénomène de réécriture. Et tout ça pose la question de l'autorité de ces textes. Finalement, est-ce que le fait que ce sont des textes, que ce sont des enseignements qui sont mis par écrit, est-ce que ça leur donne plus d'autorité ? Ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'il y ait une pluralité de textes, est-ce qu'au contraire, ça vient miner l'autorité de ces textes ? Une sorte de paradoxe.
De tout ça, on en reparlera dans notre deuxième partie, parce que effectivement, ça nous concerne, nous, les protestants. Et la quatrième conférence, alors là, c'était sur du canon aux apocryphes.
C'est-à-dire que c'est la quatrième et dernière conférence. Eh bien, on s'intéresse à toute cette masse de textes qui ont été produits. On en a parlé au cours de la troisième conférence. Que fait-on de tous ces textes ? Il y en a beaucoup, des évangiles, des épîtres, des apocalypses. Il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines. Est-ce qu'on garde tout ? Est-ce qu'on accepte tout ? Est-ce qu'on rejette certaines choses ? Est-ce que tous ces textes ont pour vocation à être lus par tout un chacun ? Ou est-ce que certains textes sont réservés à une minorité ? Le terme apocryphe veut dire caché. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y avait des gens à l'époque qui se vantaient de dire « nous avons accès à des évangiles qui sont cachés », c'est-à-dire nous sommes les seuls à les posséder, et ils s'en vantaient. Et ça n'a pas plu à tout le monde qui ont dit « ces évangiles précisément qui sont cachés, eh bien qu'ils y restent, qu'ils restent cachés, nous aussi nous voulons que ces évangiles restent apocryphes, c'est-à-dire qu'ils restent cachés du plus grand nombre, nous rejetons leurs enseignements et nous sélectionnons ceux que nous estimons avoir une autorité qui va être normative. Et cette norme, c'est ce qu'on appelle le canon. »
Alors le canon, c'est un ensemble de textes, vous venez de le dire, qui sont considérés comme sacrés, est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui.
Et qui régissent un culte, j'ai envie d'ajouter, si on le veut bien.
Oui, c'est ça, absolument. Oui, c'est un choix, c'est-à-dire que ce qu'on a vu au cours de cette quatrième conférence, c'est précisément que le choix des livres qui doivent figurer dans le canon, eh bien, il n'est pas le même partout et que différentes communautés chrétiennes ont fait des choix différents. Donc, toutes les communautés chrétiennes n'ont pas forcément la même Bible.
Alors de ça, on va en parler juste après la pause musicale. Et la pause musicale, c'est une suite pour violoncelle seule, interprétée par Jean-Noël Keras. Thank you. Dans Voix protestante cette semaine, mon invité, c'est Michaël Langlois. Michaël, nous avons fait un premier bilan de ce cycle de conférences que vous avez donné au CERC durant ces quatre premiers mois de 2013. Maintenant, on avait envie tous les deux d'aborder le point de vue protestant, qui est un peu particulier puisque un des principes protestants, cher à Luther, c'est d'affirmer que seule la Bible est importante. Sola Scriptura.
Oui, c'est ça, c'est le Sola Scriptura de Luther.
Donc, la Bible est porteuse de la parole de Dieu et donc, c'est un critère d'autorité théologique. Oui. Est-ce que c'est vrai à 100%?
Justement, les conférences qu'on a faites nous ont montré à quel point les Écritures sont étroitement liées et même dépendent des communautés qui les ont vues naître, des communautés qui les ont fait vivre, qui les ont portées, des communautés qui leur ont accordé une autorité, des communautés qui ont fini d'ailleurs par choisir certaines pour les élever au statut d'écrits sacrés, donc les Écritures saintes qui ont autorité, qui sont normatives. Alors du coup, ça pose le problème quand quelqu'un comme Luther cherche à se défaire d'une forme d'autorité ecclésiale, de dire Luther à l'époque dit voilà, concrètement, ce qu'il cherche à rejeter, c'est l'autorité papale, c'est le pouvoir centralisé de l'Église, de dire mais non, c'est pas l'Église qui a une autorité, finalement ce sont les Écritures seules, sans l'autorité de l'Église, sans l'autorité de la tradition. Or, on ne peut pas vraiment séparer les Écritures de ces traditions qui les ont portées, parce que sinon ces Écritures n'existeraient même pas. Et donc, pour moi, ça pose un vrai problème de ce point de vue-là, de parler de sola scriptura sans inscrire ces écritures dans leur contexte historique, sans les rattacher aux communautés qui les ont vues naître, sans comprendre d'ailleurs les différences qu'il peut y avoir parmi ces différents livres.
Alors, quand vous dites pour moi, c'est pour moi, Michaël Langlois, protestant?
Oui, c'est ça.
Ou historien?
Ah, bon, les deux. Non, disons, oui, là, à vrai dire, je pense que je peux le dire en tant qu'historien. Je trouve que, même d'un point de vue neutre, disons, on voit bien que d'un point de vue historique, ça, on peut difficilement envisager un sola scriptura pur et dur. Maintenant, évidemment, ça m'intéresse également à titre personnel, puisque je suis protestant. Tous les travaux scientifiques que je fais de manière générale m'intéressent, sinon je ne le ferais pas. Je pense que c'est vraiment une passion et ça m'intéresse aussi à cause de ma foi personnelle en tant que protestant.
Oui, alors, excusez-moi, mais vous n'êtes pas le premier à qui ça pose ce genre de questions. Je sais, par exemple, que Spinoza s'était posé la question de savoir pourquoi la Bible était reconnue comme écriture seule. Bon, là où on peut remettre ça en question, c'est qu'effectivement, il y a aussi d'autres courants dans le protestantisme.
Effectivement, c'est vrai que ça pose. Effectivement, je ne suis pas évidemment le premier à poser cette question-là, et je pense qu'il y a une bonne évolution dans le protestantisme à l'heure actuelle. Cela dit, si on renonce au sola scriptura, qu'est-ce qu'on met à la place? Donc, d'une part, je pense que les protestants gardent ce problème d'autorité. Finalement, qui a autorité? En tant que protestant, est-ce qu'on peut avoir une voix unanime? Est-ce qu'on peut dire, nous, les protestants, nous pensons que si notre autorité, c'est pas la Bible, si notre autorité, c'est pas non plus un pape protestant, finalement, de quelle autorité va-t-on se doter? Ça, c'est un premier problème. Et puis, par ailleurs, il va y avoir d'autres mouvements qui sont eux aussi issus de la Réforme, qui vont nous reprocher de dire, mais finalement, vous êtes moins protestants que nous, par exemple, des mouvements évangéliques, des mouvements souvent assez fondamentalistes, qui vont ériger la Bible comme autorité absolue, sacrée. La Bible est la parole de Dieu inhérente, infaillible, et on va ouvrir la Bible au hasard, on va lire un verset, on va dire, voilà, c'est ça, c'est la parole même de Dieu. Et quand nous, les protestants, on va dire, oulala, attendez, avant d'absolutiser l'autorité de l'Écriture, il faut bien comprendre ce qui se passe, bien remettre dans son contexte, eh bien, les évangéliques, par exemple, vont nous dire, mais alors vous n'êtes pas protestants, finalement. Nous, les évangéliques, sommes plus protestants que vous. Alors, qu'est-ce qu'on répond?
Qu'est-ce qu'on répond? Oui, vous avez raison, c'est une question qu'on nous pose souvent, et en particulier nos frères catholiques, hein, qui nous demandent de nous positionner, enfin de savoir qui dit quoi. Alors, de la même manière qu'il y a eu une séparation ou une émancipation entre le judaïsme et le christianisme, on constate à l'heure actuelle qu'il y a dans l'Église protestante une émancipation de certains courants évangéliques. Où est-ce que ça va nous mener tout ça?
Oui, je pense qu'effectivement, on observe le même phénomène. Au début, les premiers croyants, les premiers chrétiens sont tous des judéens. Ils sont bien intégrés au judaïsme. Et puis petit à petit, leur identité, elle se fonde sur la croyance en Jésus comme le Messie. Donc du coup, on insiste là-dessus parce que c'est ce qui nous définit, c'est notre identité. On voit que le mouvement du rabbinisme cherche à prendre la main, disons, sur le judaïsme de l'époque. Donc les rabbins ont au fait également de condamner les chrétiens comme étant hérétiques. Et très vite, il y a une séparation. Chacun va se définir par opposition à l'autre, en tout cas par rapport à l'autre et souvent par opposition à l'autre. On observe le même phénomène au XVIe siècle, à l'époque de la Réforme, où on voit justement d'une part les premiers protestants qui vont prendre des positions très nettes par opposition aux catholiques et réciproquement l'Église catholique qui va organiser le Concile de Trente et qui va prendre position sur des thèmes comme par exemple le canon des Écritures par opposition au mouvement protestant. Et c'est vrai que de la même manière aujourd'hui, on observe, et c'est l'histoire qui se répète, il y a des courants issus de la Réforme, les courants évangéliques sont eux aussi issus de la Réforme, mais aujourd'hui, ils ont évolué, ils se sont définis sur certains points qui sont assez précis, sur lesquels ils ont des positions strictes et qui ne sont pas forcément celles des autres protestants, à tel point qu'on peut se poser la question, dire finalement, est-ce qu'il faut encore les considérer comme protestants ou est-ce qu'on peut les considérer comme étant une église à part entière, un mouvement à part entière au sein du christianisme? Moi, je pense effectivement que c'est vers là qu'on se dirige. Il y a quelques années, il y a eu la création du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, d'une part. Cette année, il y a la création de l'EPUF, l'Église protestante unie de France, d'autre part. Donc, on voit bien ces deux entités qui se créent. Pour moi, en tant qu'historien, c'est intéressant de voir cette histoire récente, cette histoire contemporaine, de voir ce qui se passe. Et je pense vraiment que, petit à petit, ces deux entités se définissent et se définissent même souvent par rapport, l'une par rapport à l'autre, parfois même par opposition, l'une par rapport à l'autre. Et je crois que le fait de dire que nous avons des origines communes il y a un demi-millénaire, je ne crois pas que ça suffise à faire de nous un même mouvement au sein du christianisme. Ou alors, à ce moment-là, on peut regrouper l'ensemble des églises occidentales. Moi, en tant qu'historien, je peux regarder, je me placer du point de vue de l'Orient en disant, quand on est en Arménie, quand on est en Éthiopie, quand on est très très loin et qu'on regarde ce qui se passe en Occident, on se dit, les catholiques, les anglicans, les protestants, tout ça, c'est pareil. Donc, vu de très loin, on peut dire, oui, après tout, protestants, évangéliques, c'est pareil, mais si on regarde vraiment ce qui se passe, eh bien je crois qu'il y a des différences majeures. La question du baptême est une différence majeure. Les évangéliques insistent sur le baptême d'adultes choisis, refusent le baptême d'enfants. Ils rebaptisent les enfants qui ont été baptisés. En cela, ils se distinguent non seulement des protestants, mais même des catholiques. À vrai dire, ils se distinguent de pratiquement tous les autres chrétiens de la planète. Donc je pense de ce point de vue-là qu'il y a des raisons à la fois historiques, théologique, sociologique, pour considérer les évangéliques comme étant un mouvement à part entière.
C'est pour ça que je parlais d'émancipation et pas encore de séparation, parce oui. qu'on n'en est pas encore au point où ces églises vont faire un bout de chemin toutes seules et souhaitons qu'elles restent dans l'Église unie protestante. Et cette Bible, on voit bien qu'elle n'est pas érigée comme un monument inamovible. Est-ce qu'à votre avis, c'est justement parce qu'elle a des provenances diverses et qu'elle est contestable ou...
Bien sûr, chaque livre est né dans une communauté. On voit bien, il y a plusieurs évangiles dans le Nouveau Testament. Ces évangiles ont été rédigés dans des communautés différentes, pour des communautés différentes. Ça explique les contradictions, même parfois, qu'on peut voir dans les évangiles. Parce que le message doit parler au lecteur. Quand on écrit un livre, on dit ben, je veux que ce livre, il a un message qui soit parlant pour mon lecteur. Donc si mon lecteur, au 1er, 2e siècle de notre ère, est judéen, si c'est un azoréen, ben, je vais lui donner tout un tas de citations, d'écritures. Comme quoi les Écritures s'accomplissent dans la vie de Jésus, c'est ce que fait Matthieu. Si au contraire mon lectorat n'est pas du tout d'origine judéenne et si finalement ça l'intéresse pas beaucoup de savoir ce qui se passe et l'accomplissement des Écritures, ben comme l'Évangile de Marc par exemple, on va pas s'embarrasser avec ça. En revanche, on va prendre le temps d'expliquer. Ah oui, alors attendez, je vous explique les Pharisiens qui ils sont, ce qu'ils croient et leurs pratiques, et c'est pour ça qu'il faut se laver les mains et qu'ils sont pas contents parce que les disciples de Jésus se lavent pas les mains. Donc tout ça, on voit bien que chaque livre est issu de milieux, de communautés différentes. Et ça nous parle aussi en tant que protestants, parce que le protestantisme est pluriel. Et ça veut dire qu'on a aussi cette mission de rendre le message parlant à différents milieux, à différentes communautés. Et ça, c'est, je trouve que c'est une belle chose. Et c'est aussi une valeur qu'on peut porter, qu'on peut défendre aujourd'hui.
D'où la mise en place d'une église protestante unifiée très prochainement. Et on en reparlera sur cette antenne.
Oui, bien sûr. 2013, c'est l'année de l'EPUF, de l'Église protestante unie de France. Et ça, je trouve que c'est vraiment un événement majeur dans l'histoire du protestantisme en France, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'en Alsace, il y a déjà eu l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Mais à la limite, je dirais, ce n'est pas tout à fait la même chose de dire qu'on a une union d'Églises au pluriel et de dire qu'on fait, au contraire, l'Église protestante unie. Il n'y a qu'une seule Église. Et je pense que l'EPUF, de ce point de vue-là, est un très beau modèle qui va garder une diversité. Il y a des traditions différentes qu'on conserve, qui ont leur place, mais en même temps, nous voulons affirmer notre unité en tant que protestants.
Avec une seule et même vision du monde qui serait celle de la Bible.
Sauf que précisément, dans la Bible, on va avoir plusieurs visions. On va avoir une pluralité. Cette pluralité qu'on a au sein même de la Bible, c'est celle qu'on peut avoir au sein même du protestantisme aujourd'hui. On n'est pas obligé d'avoir une parole unique et de trancher en disant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. De la même manière qu'un exégète va mettre en parallèle, en regard, deux passages de la Bible qui vont aborder le même thème et qui vont avoir des angles différents ou des visions différentes, des approches différentes, parce qu'ils sont dans des contextes différents, et qui vont finalement parfois aboutir même à des conclusions presque contradictoires. Dans la Bible, certains personnages, on ne sait pas trop, est-ce que ce sont des personnages, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais? Le roi Manassé, selon le livre des rois, c'était un roi impie, et finalement il est mort et c'est bien fait pour lui, alors que dans le livre des chroniques, au contraire, c'était quelqu'un de très bien. Alors des fois on est un peu surpris, et dans le Nouveau Testament c'est pareil, on a parfois certains épisodes, on ne sait pas trop finalement, est-ce que au sein même de l'Épître aux Romains, Paul va dire « celui qui accomplit la loi est justifié par les œuvres de la loi ». Alors on se dit, bon, bah alors c'est formidable, mais après ça, dans la même épître, il va dire, mais personne n'est justifié en accomplissant les œuvres de la loi. Alors, toutes ces sortes de contradictions qu'on trouve au sein même de la Bible, en fait, elles nous amènent à remettre en question souvent les points de vue qu'on a. On a peut-être tendance à avoir des points de vue absolus, et peut-être il faut les relativiser en disant, de mon point de vue à moi, dans le contexte dans lequel je suis, sous cet angle-là, j'ai envie de dire ça. Mais je peux tout à fait comprendre que quelqu'un d'autre, dans un autre contexte, dans un autre environnement, va peut-être avoir une autre parole, et ça ne nous empêche pas d'être unis.
D'être unis et d'avoir une éthique unie. Mmh. Très certainement, je pense que c'est...
Les valeurs fondamentales, elles sont là, oui.
Les valeurs fondamentales, oui, tout à fait. C'est peut-être là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Et puis, on pourra réécouter cette émission sur le site de RCF et peut-être aussi sur le vôtre. Je ne l'ai pas noté. Mais
c'est michaellanglois.fr, tout simplement.
D'accord, merci d'être venu, Michaël, et à très bientôt, alors, dans l'Orléanais en tout cas, pour d'autres conférences.
Avec plaisir.
Au revoir.